Dans la course à la Maison-Blanche, un chiffre et seulement un chiffre compte, 270.
270 grands électeurs, c'est la majorité du collège électoral.
Americans do not vote directly for their president. I'm not talking about a government conspiracy. I'm talking about the electoral college.
Parce que non, le peuple américain n'élit pas directement son président, mais indirectement.
Et ce collège électoral explique pourquoi Donald Trump, et non Hillary Clinton, est président aujourd'hui. Mais d'où vient ce curieux collège électoral? Et pourquoi est-ce qu'il est si essentiel pour comprendre l'élection présidentielle? Jordan Davis, l'American Service.
Et Eric Guevara-Frey, journaliste spécialiste des États-Unis.
They want to destroy you, and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington DC, par A plus B.
This is not an ordinary election.
Jordan, c'est un peu un paradoxe. La Constitution américaine commence avec la formule « We the people », nous le peuple. Et pourtant, comme on l'a dit, le peuple américain n'élit pas directement son président.
Tout à fait. Quand on a fondé le pays, on avait peur, Eric. On pensait que le peuple ne saurait choisir directement un président. Enfin, on avait peur qu'il choisisse un tyran, un nouveau roi, comme le roi d'Angleterre, dont vous venez de se débarrasser d'ailleurs. Donc l'idée, c'était qu'il fallait élire des gens, théoriquement plus instruits, qui, eux, se réuniraient en collège pour élire le président.
Ça, c'était l'esprit de 1789, quand on a ratifié la Constitution. Après, ça a un peu évolué, mais depuis le début du 19e siècle, les Américains votent pour un grand électeur, qui, lui, s'engage à voter ensuite pour tel président et tel vice-président. Donc, ces grands électeurs se réunissent après l'élection, en décembre, dans chaque État, pour voter à leur tour, et ils envoient le résultat à Washington.
Alors, moi, je vote en Californie, j'ai également voté dans le New York. Dans ma vie, je n'ai jamais vu le nom d'un grand électeur de ma vie. En fait, dans la plupart des États, c'est le nom du ticket présidentiel qui figure sur le bulletin. Ces grands électeurs, en fait, je ne sais pas qui ils sont.
Ce sont souvent des militants ou des personnalités locales. À vrai dire, peu importe qui sont ces individus, ils sont interchangeables. Ce qui compte pour un candidat, c'est d'avoir 270, 270 de ces grands électeurs derrière lui pour arriver à la Maison-Blanche.
Et ça, c'est parce qu'il y a 538 grands électeurs en tout et pour tout. Mais en fait, Eric, il faut peut-être expliquer d'où vient ce chiffre 538.
Mais le collège électoral est calqué sur le Congrès. On donne à chaque État un nombre de grands électeurs égal au nombre de représentants, donc de députés dont il dispose. Chaque État a deux sénateurs et un nombre de représentants à la Chambre basse qui varie en fonction de la taille de sa population. Prends l'État le moins peuplé, par exemple, le Wyoming, dans les Rocheuses.
In Wyoming, you may ride for 9 hours in a day without seeing a single person.
Il a un représentant, c'est le minimum possible, et deux sénateurs. Il a donc droit à 1 plus 2, 3 grands électeurs.
Et puis il y a la Californie, l'État le plus peuplé du pays. Là, la Californie a droit à 55 grands électeurs. Bon, ce chiffre change tous les 10 ans. Enfin, 538, ça ne change pas, mais la répartition de ces 538 grands électeurs, ça change tous les 10 ans avec le recensement de la population. Certains États gagnent et perdent des sièges dans la Chambre basse. Mais en fait, si on additionne le nombre de représentants et de sénateurs, on va se dire qu'on s'est trompé, parce qu'en fait, on arrive à 535, alors que le nombre total de grands électeurs, c'est 538. Qu'est-ce que j'ai fait de faux, Eric?
Ah oui, t'as oublié Washington DC. Le District of Columbia, la capitale du pays, n'est pas un État. Mais on a ajouté un 23e amendement à la Constitution pour lui accorder quand même 3 grands électeurs. C'était en 1961.
Bon, alors, il y a juste un autre aspect technique qu'il faut aborder, qu'il faut garder en tête. Puis après, ça sera un peu plus intéressant. Hein. Chaque État, à deux exceptions près, donne la totalité de ses grands électeurs au candidat gagnant. La totalité.
Bon alors, disons qu'on est tous les deux engagés dans la présidentielle. Je te bats en Floride par 50,1% des voix.
Tu as 29 grands électeurs.
Et si j'obtiens plutôt 80% du vote populaire?
Bah, tu as toujours 29 grands électeurs. Et dans les deux cas, moi, je n'en ai aucun. C'est winner takes all.
Alors, attends.
Et ça veut dire...
Ouais, là, on va juste dire quelles sont les exceptions. Le Nebraska le Maine. Ces deux États attribuent leurs grands électeurs par circonscription. Donc, ils ne donnent pas tout au vainqueur du vote populaire chez eux.
Ok, mais revenons au winner takes all, celui qui gagne emporte tout, hein, grosso modo. Parce que en fait, c'est ça vraiment l'aspect du collège électoral en vigueur dans les 48 États et Washington DC. C'est ça qui définit vraiment la campagne présidentielle telle qu'on la connaît.
C'est pour ça que lors d'une soirée électorale à la télévision, on montre la carte du pays avec les États qui s'affichent en rouge, s'il revient aux républicains, ou en bleu, s'il revient aux démocrates.
Et ça a un impact très profond sur la géographie d'une campagne. Il y a des États, voire des régions, qu'on boude complètement pendant une campagne, et puis il y a d'autres qui sont très 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 courtisés.
There are 7 swing states in this year's election. Ohio, North Carolina, Arizona.
Ouais, ça, ce sont les swing states, les états clés ou états pivots. Ce sont des états qui sont susceptibles de basculer dans un camp ou dans l'autre. Alors les partis politiques analysent les sondages et ils vont dépenser de l'argent là où ils pensent qu'ils ont des chances. La campagne se joue vraiment dans quelques états, peut-être une dizaine. C'est pour ça qu'il n'y a aucune campagne présidentielle, par exemple, à New York, parce qu'on est sûr que cet état va voter démocrate. Mais en revanche, la campagne est très intense, très forte dans la Pennsylvanie rurale ou dans le Michigan ou en Floride, évidemment.
Mais la carte des états clés n'est pas gravée dans le marbre. Elle évolue avec le temps. Il y a les partis qui changent. Il y a la démographie aussi. Donc, le Texas était solidement républicain pendant des années. Mais cette année, voire ces derniers mois, les démocrates sentent que c'est peut-être à bout touchant. Et c'est la même chose maintenant dans l'état de Géorgie.
Et puis, il y a des états comme la Floride qui balancent entre un camp et l'autre depuis très longtemps. D'autres qui évoluent, comme la Virginie. Elle est passée en à peine 2 cycles électoraux d'une solide majorité républicaine à maintenant une majorité démocrate.
Et ça influe vraiment sur la manière de faire de la politique. Peut-être qu'on arrivera à en parler avant la fin de ce podcast, mais c'est peut-être aussi, Eric, le moment de parler des couacs.
Tu veux dire comme en 2000 et 2016?
Exactement.
37 days after Americans went to the polls and now we have a winner, now it can be said, President-elect Bush.
Donald Trump wins the presidency.
L'élection de George W. Bush et de Donald Trump sont remarquables parce que ces deux candidats ont été élus à la présidence alors qu'ils ont remporté chacun moins de voix que leur adversaire. Mais ils ont eu la majorité du collège électoral et c'est ça qui compte. Le système du winner takes all, le vainqueur remporte tout, est en grande partie responsable de ça.
Et ce n'est pas un hasard si ce sont deux présidents républicains qui ont été élus avec une minorité de voix. Les démocrates, eux, ont un problème structurel parce que leurs partisans, à eux, sont très mal distribués dans le pays. En fait, les démocrates s'agglutinent de plus en plus dans quelques états côtiers et aujourd'hui, ils remportent par exemple les grands états comme la Californie et le New York avec 60% des voix. Mais ça ne sert à rien de faire des marges aussi importantes.
Et si Joe Biden remporte une courte majorité du vote populaire, il n'est pas du tout assuré d'emporter une majorité du collège électoral. C'est aussi la raison pour laquelle il ne sert pas à grand-chose de regarder les sondages nationaux avant une élection présidentielle américaine. Ce qu'il faut regarder, ce sur quoi il faut se pencher, ce sont les sondages dans les états clés. Encore une fois, c'est vraiment ça qui compte.
Et si moi je dirigeais le Parti démocrate, je dirais qu'on arrête d'acheter des pubs parce que les démocrates feraient mieux de payer le déménagement de quelques millions de New-Yorkais ou de Californiens vers le Texas ou la Floride.
Bon là, Jordan, on parle de problèmes connus. Il y a aussi des situations hypothétiques très compliquées. Si Donald Trump et Joe Biden remportent chacun 269 grands électeurs, donc exactement la moitié... Bon, c'est peu probable cette année vu les états en jeu, mais enfin, théoriquement, c'est possible. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ce cas de figure?
Joker.
Eh bien, si aucun candidat n'a obtenu de majorité quand le Congrès se réunit pour la première fois début janvier, donc si le collège électoral a échoué à désigner un président, c'est la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès, qui élit le président à la majorité simple. Chaque état dispose d'une voix. Le vice-président, lui, est élu par le Sénat.
Oui, parce qu'on parle de ça, en fait, beaucoup en ce moment dans la presse, parce qu'on dit que si, par exemple, un État a les résultats qui sont contestés pour soupçon de fraude ou pour toute autre raison, enfin, qu'il n'y a pas de résultat clair avant le mois de janvier, c'est aussi ce mécanisme-là qui entrerait en marche.
Oui, c'est une année un peu particulière dans laquelle on parle très sérieusement de tout un tas de cas inédits, hypothétiques. Jordan, tant qu'à faire de la science-fiction, il y a aussi cette idée de supprimer le collège électoral.
En fait, on en parle depuis des années, mais surtout ces dernières années, parce qu'on a eu 2 présidents minoritaires en l'espace de 16 ans. Cela dit, ce n'est pas pour demain, parce qu'il faut modifier la Constitution. Ça veut dire qu'il faut avoir une très nette majorité des États ou du Congrès. Le pays est très polarisé, ça va sans doute pas arriver. Ou il faut trouver assez d'États pour lier leurs grands électeurs aux résultats du vote national. Mais voilà aussi, le pays est très divisé. On imagine mal les républicains soutenir l'idée.
Mais ça changerait radicalement la manière de faire de la politique. L'élection deviendrait nationale. Les petits États n'auraient plus le poids qu'ils ont aujourd'hui. Ils seraient oubliés. Les candidats feraient campagne là où se trouvent les plus grandes concentrations de population, les grandes villes.
Et ça, c'est ce que disent effectivement les partisans du collège électoral. Cela dit, on pourrait aussi dire que les partis pourraient trouver d'autres stratégies électorale. Il y aurait peut-être d'autres réservoirs d'électeurs qu'on ne mobilise pas aujourd'hui. Par exemple, un comté rural en Californie ou une petite ville progressiste au fin fond d'un État rouge. Bah, ces électeurs-là sont souvent oubliés. Là, si on éliminait le collège électoral, le vote de tout le monde va compter.
Et toi, Jordan, ton vote va compter ?
Alors, mon vote à moi, c'est une bonne question. Alors, je remplis justement mon bulletin de correspondance à l'instant. Et pour la présidentielle, en fait, non, Eric, parce que je vote en Californie. Et on sait que c'est plié, parce qu'il y a 55 grands électeurs qui sont quasi automatiquement destinés à Joe Biden. Cela dit, je vote pour un peu la beauté du geste.
Ah, pour la beauté du vote populaire.
Washington DC, par A plus B. Réalisé par
Colin Courte.
I'm Jordan Davis and I approve this podcast.
Je suis Eric Guevara-Frey et j'approuve ce balado.